Un moment, Dagobert IX eut vraiment l'air d'un empereur. Il se leva et demeura droit et digne, tandis qu'un par un ses visiteurs se dirigeaient à reculons jusqu'à la porte, où 20 hommes armés les attendaient et les encerclèrent aussitôt. Un éclair aveuglant jaillit d'une arme de poing. Beïta reprit lentement conscience, mais sans passer par la phase habituelle du « où suis-je ?». Elle se souvenait parfaitement de cet étrange vieillard qui se prétendait empereur, ainsi que des autres hommes qui attendaient derrière la porte. Le petit picotement qu'elle éprouvait au doigt signifiait qu'elle avait simplement été victime d'un rayon paralysant. Elle garda les yeux fermés et se força à écouter très attentivement les voix qu'elle entendait. Il y en avait deux. L'une était lente et prudente. La ruse transparaissait par instants sous l'obséquiosité de surface. L'autre voix était rude, rauque et saccadée. Beïta n'aimait ni l'une ni l'autre. C'était la voix rauque qu'on entendait le plus souvent. Beïta entendit les derniers mots.
« Mais c'est qu'il va tous nous enterrer, ce vieux fou. Non, c'est vrai, ça m'exaspère à la fin. Comme à sonne, j'en ai assez. Moi aussi, je vieillis. »«
Votre Altesse, voyons d'abord à quoi peuvent nous servir ces gens. Peut-être allons-nous pouvoir disposer grâce à eux de nouvelles ressources qui contribueront à renouveler un tant soit peu celles que votre père nous fournit encore. » La voix rauque se perdit dans un murmure tumultueux. Beïta n'entendit que les mots « la femme ». Mais l'autre voix continuait de plus belle. Un long ricanement, particulièrement déplaisant, fut suivi par ces mots, proférés avec une bienveillance où perçait le mépris à peine dissimulé. Dagobert, vous ne vieillissez pas. Ils mentent ceux qui disent que vous n'êtes pas un jeune homme de 20 ans. Ils rirent tous les deux, et Beïta sentit son sang se glacer. Dagobert, votre Altesse, le vieil empereur avait parlé d'un fils têtu, et elle comprenait maintenant ce que signifiait cette conversation. Mais ces choses-là n'arrivaient que dans les romans. La voix de Thoran se fit soudain entendre. Le jeune homme débita à voix basse un chapelet de jurons. Elle ouvrit les yeux et vit que Thoran était en train de la regarder. Son regard exprima aussitôt un intense soulagement.
« C'est un acte de banditisme. L'empereur devra en répondre !»
hurla-t-il avec rage.
« Libérez-nous !»
Beïta s'aperçut alors qu'elle avait les poignets et les chevilles liés au mur et au plancher par un fort champ d'attraction. L'homme à la voix rauque s'approcha de Thoran. Il était bedonnant. Il avait les yeux cernés. Ses paupières inférieures étaient bouffies et ses cheveux clairsemés. Une plume de couleur vive décorait son chapeau pointu et son pourpoint était bordé de passements métalliques argentés.
« L'empereur !»
ricana-t-il tout à sa joie.
« Ce pauvre fou d'empereur !»«
J'ai un laissez-passer signé de lui. Aucun sujet ne peut attenter à notre liberté !»«
Mais je ne suis pas son sujet !» « Vil déchet de l'espace, je suis le régent et le prince de la couronne, et c'est ainsi que l'on doit s'adresser à moi. Quant à mon pauvre imbécile de père, cela l'amuse de voir de temps en temps des visiteurs. Nous lui permettons ce plaisir, cela émoustille sa dignité impériale, mais bien sûr cela ne va pas plus loin. »
Puis, il se planta devant Beïta, qui le toisa d'un air méprisant. Il se pencha vers elle, lui soufflant au nez une haleine violemment parfumée à la menthe.
« Elle a de beaux yeux, » dit-il. « Comme à sonne, elle est encore plus belle avec les yeux ouverts. Je crois qu'elle fera l'affaire. Un plat exotique, propre à réveiller un palais blasé, qu'en penses-tu ? »
Thoran eut un vain sursaut que le prince de la couronne ignora, et Beïta sentit un frisson la parcourir. Ebling Miss n'avait toujours pas repris connaissance. Sa tête pendait mollement sur sa poitrine, mais Beïta observa avec une certaine surprise que Magnifico avait les yeux ouverts, bien ouverts, comme s'il était réveillé depuis longtemps. Ses grands yeux bruns se tournèrent vers Beïta et la dévisagèrent. Il poussa un gémissement et, désignant de la tête le prince de la couronne,
« C'est lui qui a mon luminophone !»
Le prince de la couronne se retourna en l'entendant.
« C'est à toi, monstre ! »
fit-il en pivotant sur lui-même, ce qui eut pour effet de faire apparaître aux yeux de Beïta l'instrument qui était jusqu'alors suspendu en bandoulière derrière son dos. Il le manipula maladroitement, s'efforçant d'émettre un son, mais en vain.
« Tu sais en jouer, monstre ?»
Magnifico hocha la tête.
« Vous avez pillé un vaisseau de la Fondation !» s'exclama soudain Thoran. « Si l'empereur ne venge pas cet affront, la Fondation s'en chargera !»
Ce fut l'autre, le dénommé Comason, qui se chargea de répondre d'une voix mesurée. « Mais de quelle Fondation parlez-vous? Ou alors, le mulet ne serait-il donc plus le mulet ?» Sa question demeura sans réponse. Le prince se mit à sourire, découvrant largement ses grandes dents irrégulières. Le champ de force qui retenait le clown prisonnier fut interrompu. Il s'écroula aussitôt, mais on le força à se relever sans ménagement. Puis, on lui fourra le luminophone entre les mains.
« Joue donc pour nous, monstre !»
dit le prince.
« Une sérénade !» Une jolie chanson d'amour pour faire honneur à cette belle étrangère. Dis-lui que la prison de mon père n'est pas un endroit pour elle, mais que je puis l'emmener en un lieu où elle pourra nager dans l'eau de rose et connaître l'amour d'un prince véritable. Chante-lui donc une chanson qui lui apprenne ce que c'est que l'amour d'un prince, monstre.
Il posa sa cuisse épaisse sur une table de marbre et balança nonchalamment sa jambe, tandis que son sourire fat faisait monter en Beïta une rage silencieuse. Thoran bandait ses muscles, s'efforçant de se libérer du champ d'attraction, et ses efforts le mettaient en nage. Ebling Miss s'agita et gémit.
« Mes doigts sont tout raides !» fit Magnifico.
« Joue donc, monstre !»
rugit le prince. Sur un geste de Comason, les lumières s'atténuèrent. Les doigts de Magnifico se mirent à aller et venir en rythme d'un bout à l'autre du clavier compliqué de l'instrument, et un arc-en-ciel étincelant de lumière jaillit aussitôt à travers la pièce. Un son bas et doux retentit, palpitant, vibrant. Il s'acheva en un rire triste, derrière lequel résonnait un glas lugubre. L'obscurité parut s'intensifier, s'épaissir. La musique semblait parvenir à Beïta comme au travers d'invisibles tentures qui l'eussent atténuée, légèrement assourdie. De même, la lumière semblait sourdre, d'une grande profondeur, telle la lueur d'une bougie brillant tout au fond d'un puits. Machinalement, Beïta écarquilla les yeux, tentant de mieux voir. La lumière se fit plus vive, mais les formes qu'elle affectait demeuraient encore floues. La chose s'agitait de façon confuse, désordonnée. La musique eut soudain des éclats de cuivre, maléfiques, qui montèrent aussitôt en un violent crescendo. Quelque chose se contorsionnait maintenant au sein de la lumière, une chose recouverte d'écailles métalliques empoisonnées, qui bâillait telle les ouïes d'un monstre antédiluvien. Et la musique semblait suivre le moindre de ses mouvements, le moindre de ses frémissements. En proie à une étrange émotion, Beïta se ressaisit au terme d'un effort considérable. Cela lui rappelait un peu l'épisode de la crypte de Seldon lors des derniers jours passés sur Oasis. Elle se sentait à nouveau prisonnière de cette horrible toile d'araignée faite d'horreur et de désespoir qu'il avait une fois déjà engluée dans ses raies maléfiques. Beïta la sentait à nouveau peser sur elle, l'étouffer. La musique déferlait à présent sur Beïta, tel un ricanement obscène. La chose terrifiante qui se contorsionnait au centre de ce minuscule cercle de lumière, loin, si loin qu'elle semblait l'apercevoir comme au travers du petit bout d'une lorgnette, disparut à sa vue lorsqu'elle parvint enfin à détourner le regard dans un ultime effort. Fébrile, elle sentit qu'une sueur glacée inondait son front moite. La musique s'arrêta. La séance avait dû durer un quart d'heure, et Beïta éprouva un immense soulagement en constatant qu'elle était enfin terminée. La lumière revint, et elle aperçut le visage de Magnifico tout près du sien, baigné de sueur. Le regard fou, l'air lugubre.
« Jante dame, murmura-t-il. Comment vous portez-vous ?
Pas trop mal, murmura-t-elle. Mais pourquoi est-ce que tu as joué de cette façon ? Elle prêta enfin attention à ses voisins. Thoran et Miss étaient affalés contre le mur, visiblement impuissants à faire le moindre geste. Mais elle ne les considéra qu'un instant. Elle venait aussi de voir le prince, qui gisait, étrangement immobile au pied de la table, et Commason, qui poussait des gémissements incohérents, l'écume aux lèvres. Commason tressaillit et poussa un hurlement désespéré en voyant Magnifico s'approcher de lui. Magnifico se retourna et, d'un bond, vint libérer ses compagnons. Thoran se précipita et, d'une poigne énergique, saisit le châtelain par le cou.
« Vous venez avec nous. Nous risquons d'avoir besoin de vous, si nous voulons être sûrs d'arriver jusqu'à notre vaisseau. »
Deux heures plus tard, dans la cuisine du vaisseau, Beïta servait à ses convives une tarte maison de taille impressionnante improvisée, et Magnifico célébrait leur retour dans l'espace en s'y attaquant au mépris de toute bonne manière. « C'est bon, Magnifico ?»« Magnifico.
Oui, jante dame.
C'est quoi ce morceau que tu nous as joué tout à l'heure ?
Je préférerais ne pas en parler,
dit le clown d'un air gêné.
C'est un air que j'ai appris autrefois. Vous savez, le luminophone peut avoir des effets considérables sur le système nerveux. À l'évidence, c'est une bien vilaine chose que j'ai faite là et l'imposer à votre douce innocence. Jante dame, est une bien plus vilaine chose encore.
Arrête, tu veux. Qu'est-ce que c'est que ces flatteries? Je suis loin d'être aussi innocente que ça. Mais dis-moi, je n'ai quand même pas vu la même chose qu'eux, si?
J'espère que non. C'était pour eux seulement que je jouais. Le peu que vous avez dû voir, vous l'avez aperçu du coin de l'œil, si je puis dire, de loin.
Et c'était bien suffisant. Tu sais que tu as littéralement assommé le prince ?
Je l'ai tué, voulez-vous dire, jante dame ?
Rectifia Magnifico, tout en mordant à belles dents dans sa tarte.
Quoi ?
Fit-elle en avalant péniblement sa salive.
Il était mort quand je me suis arrêtée, sinon j'aurais continué. Commason ne m'intéressait pas. Tout ce qu'il aurait pu me faire, c'est me tuer ou me torturer. Mais... « Jante dame, ce prince vous regardait d'un air pervers et... »
Il s'interrompit, incapable d'en dire plus, en proie tout à la fois à l'indignation et à la gêne. Beïta sentit d'étranges pensées lui venir et les refoula sévèrement. « Magnifico, tu as l'âme d'un gentilhomme. »
Jante dame,
dit le bouffon rouge de confusion en piquant du nez dans sa tarte sans toutefois en reprendre la moindre bouchée. Ebling Miss regardait par le hublot. Trentor était tout proche à présent. La planète de métal étincelait, impressionnante. Thoran était debout auprès de lui. Nous sommes venus pour rien, Ebling, dit-il d'un ton amer. L'homme du mulet nous a devancés. Ebling Miss se passa une main sur le front. Thoran vit que cette main paraissait moins potelée, plus ridée que jadis. Miss marmonna quelque chose d'inintelligible. « Je vous assure, » dit Thoran avec agacement, « que ces gens savent que la fondation est tombée. Je vous assure, hein ?» réagit Miss en levant les yeux d'un air surpris. Puis il posa la main sur le poignet de Thoran, oubliant complètement ce que celui-ci venait de dire.
« Thoran, je regardais Trentor. Vous savez, j'ai une étrange impression
depuis notre arrivée sur Néo-Trentor. C'est un instinct qui vient de l'intérieur. Un instinct irrépressible. Thoran, je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Les choses deviennent claires dans mon esprit. Elles n'ont jamais été aussi claires.
Thoran le regarda et haussa les épaules. Ses propos ne lui inspiraient aucune confiance. « Miss ? » fit-il.
« Oui ?»«
Vous n'avez pas vu un vaisseau se poser sur Néo-Trentor quand nous sommes partis ?»«
Non ?»
répondit l'autre après un court instant de réflexion.
« Moi si. »
C'était sans doute un tour de mon imagination. Mais ça aurait très bien pu être cet appareil filien.
Celui à bord duquel se trouvait le capitaine Anne Pritchard ?
Par l'espace, ça c'est ce que dit Magnifico. Nous ignorons bien qui pouvait se trouver à bord. Il n'empêche que ce vaisseau nous a suivis jusqu'ici, Miss.
Ebling Miss ne dit rien.
Il y a quelque chose qui ne va pas ? Demanda Thoran. Vous ne vous sentez pas bien ? Une lueur étrange et songeuse passa dans le regard de Miss. Il ne répondit rien.